Voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, le travail remis en question. Deux journalistes indépendants et passablement désenchantés par le monde qui les entoure ont enquêté sur la dégradation des conditions de travail, mais aussi sur l'inutilité, voire la nuisance de certains emplois. Quel point commun entre le cireur de chaussures et le trader dans la finance ? Franchement, c'est pas évident à première vue, si ce n'est que, en effet, personne ne peut vraiment démontrer la noblesse de leur métier. Dans tous les milieux, aujourd'hui, on trouve des gens qui reconnaissent qu'ils ont, en effet, un boulot de merde. Pardon pour la vulgarité, c'est la traduction française, en fait, d'un mouvement contestataire parti des pays anglo-saxons, le bullshit. C'est le bullshit job. Pardon, pourquoi ma langue a fourché ? Vous voyez, comme tout de suite, on est mal à l'aise sur ce genre de sujet. Le bullshit job, si vous êtes par exemple, graphiste dans la publicité, laveur de vitres avant la pluie, hôtesse d'accueil dans un couloir ou enquêteur dans un institut de sondage ou encore distributeur de prospectus qui vont à la poubelle ou tout simplement si vous ne comprenez pas à quoi sert votre travail. Appelez-nous ou plus largement, dites-nous quel regard vous portez sur votre métier à l'heure actuelle, si tant est que vous ayez le temps. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du Standard. Dans le studio pour dialoguer avec vous, Julien Brigaud et Olivier Siran, vous êtes les auteurs de cette enquête sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers. Votre livre s'appelle donc « Boulot de merde hein. ». C'est bien pour ça que je me permets cet écart de langage et c'est publié chez un éditeur extrêmement sérieux et plutôt universitaire, La Découverte. Vincent de Goljac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de sociologie à l'Université Paris Diderot. Vous travaillez depuis longtemps à réinterroger en fait le travail et vous avez publié notamment il y a un an Le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou aux éditions du Seuil. Je vous rappelle notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
À la question « Qu'est-ce qu'un boulot de merde ?» Oui, c'est vrai, la question est extrêmement abrupte. Elle est partie du titre de votre livre, Julien Brigaud, Olivier Siran. On a eu beaucoup de messages extrêmement intéressants et riches, d'ailleurs, avec des points de vue très divergents. On donne la parole à un auditeur qui nous appelle du Congo-Brazzaville. Bonjour, Aymar.
Oui, bonjour, Emmanuel. Bonjour à tous les auditeurs de 7 milliards de voisins.
Aymar, vous êtes à Brazzaville même. À la question « Qu'est-ce qu'un boulot de merde ?» Vous avez tenu à apporter votre réponse.
Ben, tout à fait, un boulot de merde, pour moi, je pense que c'est un boulot où vous pensez le faire et et vous vous rendez compte après que vous n'en gagnez rien et toute la grande décision arrive d'une hiérarchie.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire, je vais vous prendre le cas. Moi, je suis militaire, j'ai eu à subir un engagement volontaire à l'armée. Mmh. Aujourd'hui,
donc vous êtes militaire, donc engagé volontaire dans l'armée congolaise.
Hein ? Engagé volontaire dans l'armée congolaise, oui. Mm-hmm. J'ai eu à subir une formation et vu mon passé, mon cursus scolaire, les diplômes que j'ai amassés, bon, je me disais qu'en arrivant à l'armée et que ce travail devait être un travail exemplaire et un travail que je devais aimer, je vous assure que quand je suis arrivé au premier temps, c'était des gardes à répétition comme un sujet de fer, hormis ma volonté. Au début, déjà, ça commençait à me stresser. Mais là, après, ils savaient qu'à l'armée, on a des tensions. On a certaines positions que l'hiérarchie vous demande à vous poser quelque part. Et vous allez arriver sur le lieu quelque part où les chefs militaires vous demandent d'y être. Vous allez rester un moment, vous allez vous rendre compte de pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de venir dans cette position alors que je suis dans la mer, dans la pluie, dans la galère et tout ça. Et quand vous allez arriver, d'essayer de vous revolter, et non, ils vont vous dire qu'à l'armée, vous êtes aux ordres. Mmh. Donc, pour moi, je pense que j'ai eu à faire un mauvais choix et que c'est vraiment un métier de merde que j'ai su lancer. Bon, vu que j'arrive à faire, j'ai eu à écrire à ma hiérarchie de pouvoir quitter cette armée, ils me disent que non, à l'armée, quand on rentre, on ne sort pas. Vous imaginez un peu, c'est quel genre de boulot. Ouais. Vous plongez quelque part, vous attendez, on vous demande de vous poster quelque part, on vous demande
donc,
de
prendre des armes. C'est ça, j'ai bien compris, vous êtes posté toute la journée à ne rien faire. C'était la même chose au moment des révoltes post-électorales, Emma?
Je vous assure que c'est la pire galère et c'est la même chose. On vous demande de vous poster quelque part. Vous ne savez pas pourquoi qu'on vous demande de vous poster. C'est les gens au-dessus qui prennent des décisions pour vous. Et vous, par contre, vous n'avez même pas une réponse, même pas à vous poser de questions pour savoir pourquoi qu'on me demande ça.
Ouais. Donc, vous vous sentez déclassé, piégé et inutile.
Inutilement, voilà. C'est vraiment un boulot de merde. J'ai regrette pourquoi est-ce que je me suis plongé là-dedans.
Merci beaucoup, Emar, d'avoir appelé, parce que tout de même, un auditeur militaire qui appelle en direct dans un pays pas simple, c'est tout de même assez courageux. Merci beaucoup, Emar, de nous avoir appelé. Vous pouvez bien sûr nous contacter au 33 1 84 22 71 71. Vincent de Goljac, vous prenez des notes.
Ben oui, parce qu'il résume assez bien ce qui fait le désenchantement au travail, le sentiment d'être instrumentalisé, le sentiment que ce qu'on nous demande de faire n'a plus d'utilité, donc ne fait plus sens. Et je pense que fondamentalement, et c'est bien écrit dans le livre, c'est des gens qui n'arrivent plus à être sujets, au sens d'être sujet réflexif, de pouvoir faire fonctionner son intelligence. Des gens qui sont récusés dans la possibilité d'être sujets, qui ne sont traités que comme des objets qu'on va placer là, faire une garde, mais sans que cette signification, ni pour la société, ni pour eux.
On a beaucoup de témoignages. Vous souhaitez réagir sur le témoignage?
Oui, non, juste une chose, peut-être, c'est que le métier de militaire, à mes yeux, est assez allégorique de la manière dont fonctionne le marché du travail dans l'ensemble. C'est-à-dire que le militaire, par définition, il est soumis à une autorité très forte qui n'est pas en droit de remettre en question. Et le monde de l'entreprise, très souvent, fonctionne exactement sur ce même principe.
On accueille une auditrice qui nous appelle de Kinshasa, de l'autre côté du fleuve Congo. Bonjour, Guylaine.
Oui, bonjour, Emmanuel Bastide. Bonjour, tous les voisins du monde entier.
Merci beaucoup de nous appeler pour répondre à la question que nous posons pendant cette émission à la lumière de cette enquête sociologique sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers. Vous vous sentez dans une situation difficile dans votre métier. Expliquez-nous, Guylaine.
Ah oui, je suis infirmière, fonctionnaire de l'État. En même temps, je travaille dans une officine pharmaceutique.
Oui.
Je commence le travail de 7h à 22h. Donc, ça fait 15h du travail.
Attendez, vous travaillez de 7h à 22h?
De 7h à 22h.
Dans une pharmacie à Kinshasa?
Oui, dans une pharmacie à Kinshasa.
Comment est-ce possible que vous ayez de tels horaires, Guylaine?
Parce qu'on ne travaille qu'à deux. Maintenant, c'est moi qui est vraiment chargée des achats et plus autre chose. Quand je quitte la maison, et le matin, là, quand je me réveille trop épuisée, je me réveille vraiment trop épuisée parce que les heures-là du travail, ce sont des heures vraiment supplémentaires, bien chargées.
C'est ça. Cet emploi du temps est extrêmement lourd. Est-ce que vous avez un salaire en conséquence, Guylaine?
Oui, j'ai les problèmes de l'insomnie. Ok, je dors souvent vers 1h, 0h, donc...
Vous dormez très peu. Je vous posais la question sur votre salaire, Guylaine. Est-ce qu'on vous paye vos heures supplémentaires?
Un peu, parce que la condition du Congo, vous-même, vous savez.
Oui. Guylaine, si vous n'aviez pas cet emploi du temps, ces horaires extrêmement lourds, 15 heures par jour, est-ce que vous aimeriez votre travail de pharmacienne?
Bon, pas aimer, mais avec la conjoncture, on est censé d'aimer.
Avec la conjoncture, on est censé d'aimer. Eh ben vous résumez bien les choses. Merci beaucoup, Guylaine, de nous avoir appelés. On a beaucoup de messages sur Facebook sur les divergences aussi qui sont suscitées par la question que vous posez dans votre enquête, Julien Brigaud, Olivier Siran. Martial à Kinshasa également livre sa vision du travail. Le gardiennage, c'est vraiment pas rentable. Il y a beaucoup de pression. Anne au Koweït nous dit « Femme de ménage, surtout dans les pays arabes, rap, c'est vraiment un boulot de merde. Abdul Karim, qui est aux Comores, nous dit un boulot de merde, c'est celui qui ne coïncide pas avec tes études et ta spécialité. C'est souvent le cas des immigrés africains en Europe. Ils font certains boulots car ils ont des problèmes de papier. Ils ne sont pas fiers de ces boulots-là, mais ils s'accrochent, ils restent optimistes. Il y a Ibrahim Anjamena au Tchad qui nous dit que les métiers les plus méprisés sont ceux de la police, de l'armée, de la politique. Ces métiers rassemblent les feignants, les menteurs et les corrompus. Ou encore Alpha à Dakar nous dit « Président de la République, c'est vraiment un boulot de merde ». Bernard qui est au Brésil, dans le Nord, à Rio, répond aussi la même chose. « Être politicien dans certains pays, c'est un boulot de merde. Mais si on aime ce qu'on fait, alors ça va. Faut pas devenir ingénieur si tu veux faire du théâtre, quoi ». Énormément de réponses, pas mal de voisins aussi qui sont au contraire indignés finalement de la question que vous posez, qui dévalorise d'une certaine manière la valeur du travail. Ahmed à Palma de Majorque nous dit « Pour moi, il n'y a pas de boulot de merde. Tout ce qu'on fait pour gagner notre vie dignement est une bonne chose. Il n'y a pas de saut métier ». Ou encore Abou à Dakar qui dit « quel que soit le boulot qu'on fait, il faut le faire à fond. Il n'y a pas de sous-métier. L'essentiel, c'est d'être fier de ce qu'on fait, de gagner sa vie dignement ». Ou encore Abdoul à Nouakchott nous dit « À partir du moment où notre boulot nous permet de joindre les deux bouts, il ne peut plus être considéré comme un boulot de merde. Si on ouvre sa famille, forcément, il y a une dignité ». Et puis, il y a Moïse qui est dans le nord du Cameroun. C'est pour vous dire, hein, si les témoignages affluent de partout, qui cite carrément l'ancien président américain Abraham Lincoln. « Whatever you are, be a good one. Quel que soit votre métier, faites-le bien, de telle sorte que les gens se rappellent de vous ». Donc la question des boulots de merde, conclut Moïse Angaoundéré, donc, est plutôt subjective. Alors qu'est-ce que vous répondez à tout ça, Julien Brigot, Olivier Siran ?
Quel panorama ! C'est très intéressant d'avoir tous ces différents métiers qui interviennent. L'émission s'appelle 7 milliards de voisins, oui, alors peut-être qu'on peut parler des voisins de Issy-les-Moulineaux, par exemple, puisqu'on est ici dans les studios de RFI, à Issy-les-Moulineaux. Et exactement il y a 7 jours, il y a deux ouvriers du bâtiment qui sont décédés à quelques centaines de mètres d'ici, sur un chantier. Ça n'a fait absolument aucune espèce de... Il n'y a pas eu d'information. Il y a eu une minuscule brève dans le journal Le Parisien. C'est quelque chose qui n'intéresse pas. Il y a eu 1000 morts dans le bâtiment en France entre 2010 et 2014. C'est un métier où on perd sa vie. Et derrière, il semble pas que les journalistes ne s'emparent pas de ce sujet. Donc là, on a une situation où les gens perdent leur vie au travail. Là, c'est quand même quelque chose de...
C'est la première catégorie dans votre enquête, en fait.
Hein, l'autre catégorie, en l'occurrence,
ce sont les métiers qui font mal mm-hmm. au corps, mal aussi au psychisme, éventuellement. Mm-hmm.
Hein. Tout à fait. Mais là, ce que cette histoire fait intervenir, c'est aussi le travail mal fait, de notre point de vue, des journalistes ou des rédactions, ou les services... qui se consacrent à l'actualité sociale sont de plus en plus...
L'indifférence de la société, notre indifférence,
voilà,
c'est ce que vous voulez dire, finalement.
Et c'est-à-dire que dans les quelques articulés qui ont été consacrés à ces deux malheureux ouvriers morts écrasés sous une nacelle, le nom du donneur d'ordre de ce chantier n'a pas été donné, on ne connaît pas l'identité des victimes, on ne sait pas dans quelles circonstances exactement ça a eu lieu. C'est-à-dire ces deux morts qui sont... inconnu au bataillon, et ça résume bien aussi l'état du journalisme en France aujourd'hui, raison pour laquelle nous, en tant que journalistes, on parle d'abord de nos propres boulots de merde dans la profession de journaliste.
Parallèlement, voilà. La presse dénonce par exemple un scandale qui est en train d'arriver, le scandale du cimentier Lafarge, qui est accusé par l'ONG Sherpa d'avoir mis en danger la vie de ses salariés en Syrie et d'avoir financé le terrorisme international. C'est vrai que... mais enfin, vous voyez, comme quoi on dénonce aussi, la presse dénonce aussi... les conditions de travail dans certaines entreprises.
Ouais, enfin, très timidement quand même. Ça fait au moins 6 mois qu'on connaît l'existence de liens entre l'État islamique et la société Lafarge. Il y a eu extrêmement peu de suivi journalistique sur cette affaire.
Vincent de Goljac, vous qui êtes spécialiste du travail, sur ces métiers qui abîment le corps, sur le fait qu'en France aujourd'hui, en 2016, il y a des travailleurs qui meurent sur le lieu de de leur travail. C'est une tendance qui s'aggrave ou pas? Parce que a priori, les entreprises ont une très forte pression aujourd'hui pour réduire les accidents du travail, notamment fiscal.
C'est intéressant, ma question, parce qu'elle est, elle est paradoxale. Je dirais que globalement, les conditions objectives de travail se sont plutôt améliorées quand on voit depuis Germinal, le travail dans les mines, la pénibilité. Et de tout temps, le travail était marqué par certains travaux, par une grande pénibilité physique et des conditions objectives qui étaient difficiles et dont on voit dans le livre qu'elle renvoie à la question, différentes questions. Il y a la pénibilité physique, il y a les accidents du travail, il y a aussi la précarité, il y a le fait de, d'être mal payé, d'avoir du 12 heures, 15 heures par jour. Ça, c'est les conditions objectives du travail. Ce qui est paradoxal, c'est que si les conditions objectives de travail se sont plutôt améliorées, les accidents du travail baissent, par exemple, statistiquement, les conditions subjectives de travail semblent s'être singulièrement détériorées. Ça veut dire quoi ? Deux choses en particulier. La première, c'est la mobilisation psychique et la pression psychique, la tension dans lesquelles on est mis quand on vous demande de faire plus avec moins, quand on est évalué en permanence par rapport à ses résultats, quand on est mis en compétition par rapport à l'avancement au mérite, par rapport aux autres, qui brisent les collectifs, la solidarité et qui est le chacun pour soi. Ça, c'est les conditions psychiques. Et puis, la mobilisation psychique, et dans les retours, c'est, qui est très intéressant, c'est le nombre de fois qu'a été utilisé le terme de mépris ou de dignité. Et la question de la morale, et derrière la Farge, mais c'est aussi derrière UBS, derrière HSBC. Tout le monde aujourd'hui, soumis à cette pression de la rentabilité, est prêt à tricher pour avoir des bons résultats. Alors, ça va du syndrome Lance Armstrong, où les plus grands champions du monde de cyclisme, tout le monde savait qu'ils trichaient. Et pourtant, ceux qui l'ont dit, c'est eux qui ont été stigmatisés dans un premier temps. Et que les grandes entreprises, Volkswagen et les autres, soient obligées de tricher. On sait que tout le monde triche. Et pourquoi tout le monde triche? Parce qu'on maquille en permanence les résultats de ce qu'on fait, non pas par rapport à la réalité de ce qu'on fait, mais par rapport à, aux indicateurs sur lesquels on va être mesuré. Et ça, c'est une question morale. La dignité, on perd sa dignité quand on participe à se maquiller les comptes, à continuer à faire de la à produire alors qu'on est en guerre et qu'on est obligé de détourner la loi. Mais c'est pareil quand on fait de l'optimisation fiscale. Optimisation fiscale, quel mot ? Quel mot à valise ?
Avocat fiscaliste qui conseille des entreprises, par exemple, pour payer moins d'impôts. Alors ça fait partie de ce que vous appelez les métiers nuisibles. C'est comme le trader sur les marchés financiers. C'est bien cela, Olivier Siran et Julien Brigot ?
Oui, c'est les métiers qui détruisent plus qu'ils ne créent de valeur. Et on se base sur une étude de la New Economic Foundation qui a été menée en 2009 par trois chercheuses britanniques et qui ont carrément évalué l'utilité sociale. Elles l'ont quantifiée. C'est-à-dire que, par exemple, le conseiller fiscal détruit 47 fois plus de valeur qu'il n'en crée.
En toute légalité, il faut le rappeler.
En toute légalité, oui. Enfin, pas toujours, mais oui, ça dépend. Enfin, ensuite, les ouvriers du recyclage, à l'inverse, eux, créent 12 fois plus de valeur qu'ils n'en détruisent.
C'est-à-dire que pour 1 euro qu'il gagne, 1 euro d'un maigre salaire, en fait, il crée 12 euros de richesse. En réalité, il devrait être payé 12 fois plus. Alors que le conseiller fiscal, c'est l'inverse. Il devrait, en réalité, être payé au moins 47 fois moins que les opulents émoluments qui touchent pour priver la société de la collecte de l'impôt.
Ou le publicitaire, par exemple. Le publicitaire détruit 11,5 fois la valeur qu'il génère en raison, notamment, des conséquences sociales et environnementales de la publicité. On pourrait dire que la publicité crée des emplois avec la consommation, etc. Mais la publicité crée de l'endettement, de l'obésité, le ramollissement de nos cerveaux aussi, l'enlaidissement de nos paysages. Tout ça n'est jamais comptabilisé dans les métiers. Et cette étude propose de le faire pour la première fois.
Olivier Siran et Vincent de Goljac. Vous restez avec nous, on va rendre l'antenne pour le flash. On s'interroge, vous l'avez compris, je pense, sur le sens de certains emplois, sur la dégradation aussi des conditions de travail, y compris pour des métiers ô combien utile, puisque vous avez par exemple interrogé du personnel hospitalier. On se retrouve dans 3 minutes avec vos témoignages également.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On s'interroge aujourd'hui sur le sens de certains emplois, sur la dégradation des conditions de travail, y compris pour des métiers ô combien utiles. Avec vous, Vincent de Gaulle-Jacques, vous êtes sociologue, Université Paris Diderot. Vous avez publié « Le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou ». Et Julien Brigaud, Olivier Siran, vous publiez cette enquête assez singulière qui s'appelle « Boulot de merde », enquête sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers, dans laquelle finalement vous apportez trois classifications, les métiers qui font mal. Typiquement, on avait des témoignages en début d'émission de cette pharmacienne qui travaille 15 heures par jour dans une officine à Kinshasa, de ce militaire à Brazzaville. Et puis, il y a cette deuxième catégorie, ces métiers utiles devenus finalement merdiques, pour employer votre mot. Ça peut être du personnel hospitalier, on va en parler, qui est tenu à une telle rentabilité qu'il n'exerce plus son métier dans les conditions qu'il devrait. Et puis il y a ces métiers nuisibles, les traders financiers, les avocats fiscalistes qui par exemple empêchent de faire rentrer des recettes fiscales dans les caisses des États. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de deux jeunes femmes, deux parcours. L'une est à Bac plus 5, l'autre a un bac technique, et elles ont raconté leur malaise par rapport à leur travail à Charlie Dupiau en région parisienne.
Je suis factrice et ça fait 5 ans que je le suis.
Je suis consultante en développement durable depuis septembre 2015. Le travail consiste à accompagner des entreprises pour valoriser son image auprès de ses clients. Par exemple, mettre en place du covoiturage pour les employés. Si vous faites telle action, vous allez économiser 20% de votre électricité. Ça, c'est des choses que les entreprises sont prêtes à écouter. Le but de notre activité, avant tout, est de faire gagner de l'argent à mon entreprise et à l'entreprise cliente. Après, il y en a qui sont sincères, qui sont en pointe sur ces sujets-là, et ça, c'est un peu ce qui me console. Mais c'est pas la règle générale, malheureusement.
Comment vous trouvez votre travail ?
Il est ennuyant, c'est tout le temps les mêmes choses, c'est répétitif. Je vais juste pour distribuer le courrier, c'est tout. Juste par obligation, parce qu'il faut avoir un salaire, mais sans plus. Alors moi, j'ai à peu près parfois 200 à 300 plis par jour en lettres. 2 minutes par immeuble pour pouvoir trier le courrier dans les boîtes aux lettres. Donc il faut qu'on fasse très vite. On a l'impression d'être dans une usine en fait. On arrive, on récupère notre courrier, on s'en va en distribution, on revient.
Et à quoi vous pensez pendant ces journées où vous faites tous les jours la même chose, où vous distribuez du courrier ?
Je pense pas en fait. Maintenant, j'ai l'impression d'être un robot. Je suis vraiment automatisée. Je vais au numéro 175, je distribue au 175 et je m'en vais. Avant, ça me stressait en fait cette situation. J'avais l'impression de perdre mon temps. Et donc, pour pouvoir oublier tout ça, je me suis mise à écouter de la musique et les journées elles, se déroulent et je ne me rends pas compte. Parce que sinon, on ne peut plus tenir en fait.
Comment vous vous sentez, vous, dans ce travail-là ? Pour être honnête, je ne me sens pas très bien. Je me sens mise en pause, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, un peu paralysée, entre guillemets. C'est épuisant assez rapidement de devoir faire des compromis au quotidien sur ce en quoi on croit. Pour donner un exemple concret, j'ai dû faire plusieurs déplacements en Italie l'an dernier, dans la même ville, à Rome, à 2 jours d'intervalle, au lieu de rester sur place. En termes d'empreinte carbone, c'est délirant. Alors que c'est mon travail de conseiller les entreprises à ne pas faire ce genre de choses.
Comment le vivent vos autres collègues ?
Quelques personnes sont parties parce qu'ils avaient aussi ce problème d'adéquation avec leurs valeurs, avec leur idéal de vie. C'est une équipe d'à peu près 30 personnes. En un an, j'ai vu partir 6 personnes. Je pense que le boulot de consultant peut très vite devenir un boulot de merde. On a très peu de retours qui soient positifs ou négatifs sur ce qu'on fait. Parfois, on écrit des choses qui seront lus que par une seule personne et qui serviront à rien d'autre. Parfois, on préconise des choses que les entreprises n'écouteront pas. C'est des entreprises qui peuvent faire des choses, par exemple, très polluantes ou des entreprises qui peuvent avoir des pratiques qui sont éthiquement répréhensibles. Mais ça, on ne va pas en parler et on nous demande de ne pas en parler.
Comment vous vous sentez au sein de cette entreprise-là qui vous emploie ? Donc là, en l'occurrence, au sein de La Poste.
Je ne me projette pas, je ne me pose plus la question de savoir quel est mon rôle vraiment dans cette entreprise, puisque je sais pertinemment que si je ne suis pas là, je serai vite remplacée en fait. Pendant les 2 premières années, J'ai essayé de remplir toutes sortes de défis, faire toutes sortes de challenges pour essayer d'évoluer. Parce que je pensais que quand on est dans une boîte et qu'on monte de la volonté, de la motivation, que ça nous aidait à gravir les échelons. Mais non, malheureusement, les facteurs restent facteurs toute leur vie. Voilà, une petite pièce dans le système.
On est un peu dépossédé de l'impact de ce qu'on fait. On a l'impression d'être un peu un pion. De faire partie d'un système qu'on réprouve, mais en même temps qui est nécessaire à ma survie au quotidien. Ça va sonner idéaliste, mais je ne suis pas la seule dans ma génération. J'aimerais juste, à la fin de ma journée de travail, me dire ce que j'ai fait aujourd'hui, non seulement n'a pas rendu le monde pire, mais peut-être même meilleur. Et pour le moment, c'est... Mais pourquoi je fais ça? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fais?
Voilà, deux positions, deux emplois, deux positions sociales et deux malaises bien, bien réels, Vincent de Gaulle-Jacques.
Oui, elles expriment parfaitement hein, cette... qu'est-ce qui rend fou? Ce qui rend fou, c'est qu'on vous paye pour faire du développement durable, lutter contre la pollution, et les conditions font que vous polluez encore plus que ce que vous risquez de gagner en termes de pollution. Ou alors, c'est la question de l'estime de soi. Les sociologues avaient bien montré que même le travail ouvrier était un travail dans lequel on retrouvait de la fierté, de la confiance et de l'estime de soi parce qu'il y avait la qualité de ce qu'on faisait. Hein, on était un bon ouvrier, un bon journaliste, un bon médecin parce qu'on soignait, parce qu'on savait qu'on pouvait retrouver de la valeur dans ce qu'on faisait. Or, dans tous ces témoignages, on voit bien que ces métiers-là, il y a une déperdition, effectivement. Ils ont le sentiment que ça n'a plus de valeur et que les prescriptions ou les indicateurs qui vont mesurer la qualité du travail, la valeur de ce qu'ils font, sont en contradiction avec les valeurs qu'eux attachent au travail bien fait. Et ça donne psychiquement et moralement, ça met les gens dans un sentiment de dégradation du travail, d'un côté, et puis de perte d'estime de soi, de l'autre.
Olivier Siran.
Oui, je crois que ce qui est très important de noter, en particulier par rapport au témoignage de la factrice, c'est que ce manque de sens dans le travail qui est fait, ce n'est pas qu'une donnée purement subjective, c'est aussi le résultat d'une politique délibérée qui, à la Poste, a pour nom le lead management. Le lead management, c'est une doctrine qui a été conçue dans les usines de Toyota au Japon. C'est un process managérial qui consiste à faire la chasse au temps mort et à tirer le maximum de productivité et de rentabilité du travailleur. Et cette idéologie, car c'en est une, puisqu'il y a une vraie dimension politique, une vision du monde dans cette technique managériale, s'est diffusée partout, y compris en France, y compris dans les services publics, donc notamment à la Poste et dans les hôpitaux. Et ça a des effets absolument désastreux.
C'est cette chasse au temps mort qui fait que finalement vous n'existez plus socialement par rapport aux personnes que vous servez par votre travail, d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas remettre en cause l'utilité sociale d'un facteur qui distribue le courrier à la base.
Le facteur, il n'est pas utile seulement parce qu'il distribue le courrier, mais aussi parce qu'il peut rendre parfois des services, il discute avec la personne âgée qui est isolée, il peut lui ramener des médicaments, faire éventuellement... Voilà, il y a un travail humain qui donne en fait tout son sens au travail. Or, ces services qui étaient rendus gratuitement par les facteurs sont désormais proscrits au nom du lean management.
Proscrits, en revanche, d'autres... où les facteurs sont obligés de les faire payer.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que les services qui étaient rendus gracieusement, avec plaisir par les facteurs, sont désormais remplacés par des tâches, les mêmes tâches en fait, sauf qu'elles sont vendues. C'est des tâches marchandes. Il s'agit d'être payé désormais en tant que facteur à promener le chien de la mamie en vacances ou de vendre des systèmes de vidéosurveillance.
Vous allez évidemment dans votre enquête assez loin, c'est-à-dire qu'en gros, vous critiquez toute cette société de métiers de service qui, pour vous, est finalement une société de servilité.
Oui, absolument.
Que ça aille des... Alors, il y a les portraits de Léa, 24 ans, qui est plante verte dans un palace parisien. C'est pas évident, non? Quand vous êtes allé voir tous ces gens-là et que vous leur avez dit « Alors, racontez-moi votre travail, que vous soyez dans les métiers du luxe ou que vous soyez... Vous avez un boulot de merde, racontez-moi... » Comment vous avez fait?
Déjà, Assez souvent, on est parti de nous-mêmes, on a essayé de mettre nos interlocuteurs à l'aise, en leur expliquant que nous-mêmes...
C'est agressif quand même comme démarche,
oui, bien sûr. Et on n'a pas toujours utilisé cette expression, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'entend mal. On a tous tendance à vouloir valoriser le travail qu'on fait, à lui injecter du sens, même quand il n'en a pas, qu'il n'en a plus. Donc, effectivement, on parle de dignité. En réalité, la dignité au travail, elle est brisée de toutes sortes de manières, par les méthodes managériales, etc., par le chantage auquel le travailleur est soumis. Mais venir raconter à une personne qui, malgré tout, tient à valoriser sa tâche, qu'elle accomplit un boulot de merde, c'est évidemment, ça peut être perçu comme très condescendant. Donc nous, en tant que journalistes précaires, nous partageons, nous avons aussi, d'une certaine façon, un boulot de merde, parce que du fait à la fois des conditions dégradées dans lesquelles nombre de journalistes effectuent leur travail, du fait du contenu, du coup, de ce travail, de la précarité grandissante dans ce métier. Donc ça permet, dans certains cas, de dresser cette société du service
que vous dénoncez,
qu'on partage un peu la même condition.
Que vous dénoncez comme une société, finalement, de servilité, notamment avec toute cette industrie du luxe qui explose. Vous allez voir, par exemple, un architecte décorateur de centres de commerciaux et de duty-free d'aéroports qui est extrêmement fier de son boulot parce qu'il évolue dans un monde tout de même assez agréable, assez confortable. Vous décrétez que c'est un boulot de merde. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose tout de même? Est-ce que vous n'avez pas un peu loin, Julien Brigaud?
Mais c'est pas parce que les gens effectivement trouvent du sens et essaient de trouver du sens et de la valeur à leur travail que forcément ce travail...
Ou en tout cas du fun.
Oui, du fun, mais prenons par exemple le manager de transition dont le métier consiste à supprimer des emplois par paquet de 1000. Lui, par exemple, le sens qu'il va trouver, c'est de dire grâce à ces ponctions que j'opère, eh bien je sauve l'entreprise. Et lui, il s'éclate dans son métier, il est très content. On interroge aussi un conseiller de gestion en patrimoine. Il dit je paierai pour faire ce job, je m'éclate. C'est vraiment l'éclate. Et à l'inverse, effectivement, on parlait des métiers de la servilité. Juste une information, une statistique.
Mais donc là, vous admettez quand même qu'il y a débat, non, sur des métiers comme ça.
Mais bien sûr, mais effectivement, mais en tant que journaliste, pour ce métier, comme on n'est pas encore totalement robotisé, on a encore une grille de lecture sur le monde social. Et effectivement, par exemple, le métier de cireur de chaussures ne nous paraît pas... Le fait qu'il revienne, en plus, dans l'économie sociale et solidaire en France, ne nous paraît pas de très bon augure, ou en tout cas nous semble être un bon indicateur de l'explosion des inégalités sociales et de ce que ça engendre.
En réalité, vous dites, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin? Je pense qu'en réalité, on ne va pas assez loin, parce que la brutalité du monde du travail aujourd'hui, elle est bien au-delà de ce que nous sommes capables de décrire dans un livre qui...
Alors, c'est vrai que quand on voit dans la capitale parisienne des conducteurs de rickshaw, enfin, qui promènent des touristes sur des vélos, on se demande tout de même si, on s'est pas en train de devenir New Delhi. Forcément, ça interroge le passant. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à une auditrice qui nous appelle, qui souhaite intervenir en direct. Caroline, bonjour. Vous nous appelez de Vincennes au 33 84 22 71 71.
Oui, bonjour les auditeurs des RFI. Oui, je tiens à apporter mon témoignage sur une grande boîte américaine qui se tient en Île-de-France. On est vraiment au contact avec les visiteurs qui viennent du monde entier toute la journée. Et c'est une boîte qui va fêter ses 25 ans, là.
Oui, c'est un parc d'attractions, enfin, c'est ça?
Oui.
Oui, d'accord, mais c'est pas la peine de donner le nom, je crois qu'on a compris.
Et je téléphone parce que les conditions de travail là-bas se dégradent de jour en jour, mais personne ne semble le savoir parce qu'ils continuent de recruter des gens dans toute l'Europe, en Grèce particulièrement, et dans des pays, des Portugais, des Italiens, et en leur promettant je ne sais pas quoi, mais ils viennent tous super contents, même certains très qualifiés, et en fin de compte, une fois qu'ils sont là, ils se rendent compte que, c'est pas rose, la plupart forcément ils restent pas, mais ce qui devient très difficile, c'est pour les personnes qui sont là depuis très longtemps, comme moi, qui sommes rentrés optimistes et joyeux. Et en fin de compte, maintenant, il y a plein de changements, comme les changements d'horaire, on nous les casse, avec la fermeture des parcs plus tard, les événements privés, jusqu'à 1h, 2h du matin. Ensuite, il y a tellement de choses. Les jours de congé, ceux qui avaient des samedis, dimanches étaient chanceux. Maintenant, ils déplacent tous les jours. Et si on ne veut pas ou ça fait des histoires, on nous renvoie. Il y a aussi les suppressions de primes, les managers qui sont mutés par copinage. À longueur de journée, on ne peut rien faire. Il y a une frustration énorme. Les bureaux administratifs sont tous délocalisés à Val-d'Europe. Et voilà, les syndicats n'ont plus la parole. Enfin bon, ça devient vraiment une boîte où j'ai vu se dégrader les conditions de travail et c'est très malheureux. Je suis extrêmement malheureuse et frustrée. Et voilà, je tenais à apporter mon témoignage parce que je ne suis pas la seule. Et voilà, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais en tout cas, je n'ai plus de joie de vivre à Disney. J'essaye de faire mon maximum pour les visiteurs. Mais voilà, quoi, je rentre chez moi, ce n'est pas la joie de vivre. Voilà.
Merci.
C'est tout ce que je peux dire.
Merci Caroline. On sent que vous êtes complètement au bout du rouleau. Vincent de Goljac, vous souhaitez réagir ?
Oui, parce que c'est un. Il faut revenir sur le fait que c'est un phénomène mondial lié à la globalisation et que cette révolution managériale, elle est née dans les multinationales. Et au nom de la performance, de la flexibilité, de l'adaptabilité, de la rentabilité.
Attendez, Caroline, on va vous laisser réagir après, mais oui, laissez terminer Vincent.
Et elle s'est développée pour moderniser les entreprises publiques, comme la Poste, etc. Et puis, elle s'est imposée aux clients et aux fournisseurs de ces multinationales. Et elle a été vendue dans le monde entier par les grands cabinets de consultants. Et les consultants dont vous parlez aussi tout à l'heure, c'est eux qui ont été de développer un management de la prescription qui produit tout ce que notre auditrice vit aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est lié à la révolution des ressources humaines. C'est-à-dire, ce qui donnait du sens au travail, c'est ce qu'on faisait, le faire.
Aujourd'hui, est-ce qu'on décidait aussi par soi-même, hein, d'une certaine manière ? Il y avait une forme de...
Qui donnait une forme d'autonomie et de revalorisation par ce qu'on était amené à faire du bon travail. Là, aujourd'hui, on voit que la révolution... C'est vraiment une révolution idéologique des ressources humaines. On s'est dit, c'est bien, on remet l'humain au centre. Sauf que, comme on gère l'humain comme une ressource, on ne s'intéresse plus qu'à la rentabilité de cette ressource humaine. Ouais. Et donc, ça déshumanise et ça produit ce qu'on dit, c'est-à-dire la mise en place d'indicateurs qu'il faut faire en permanence, des objectifs qui montent, les moyens qui diminuent. Et donc, il faut faire plus avec moins et ça crée ce que cette auditrice décrit concrètement dans son travail.
Caroline, on entendait dans votre témoignage qu'en fait, vous vous sentez complètement découpée hein, en petits morceaux d'une certaine manière.
Oui, et aussi, je vois les conditions les conditions du parc. Le parc est vraiment dans un état. Ça fait 25 ans qu'ils n'ont rien fait. Et bon, voilà, c'est maintenant qu'ils font tout à la va-vite. Et aussi, les personnes qui sont 40-45 ans comme moi et plus... et qui ont une vingtaine d'années, une quinzaine d'années ou 25 ans dans la boîte, maintenant, ils commencent à nous jeter dehors. Ils savent le potentiel qu'on a, l'expérience qu'on a, mais ils n'en veulent plus.
En faisant venir des travailleurs qui sont d'eux-mêmes éjectés de leur marché de l'emploi en Europe du Sud.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Caroline. Vincent, vous souhaitez réagir.
Oui, ce qui est frappant aussi dans ce témoignage, et nous avons recueilli nombre de témoignages d'autres corps de métier qui racontent exactement le même genre de situation, c'est que le droit du travail, il est bafoué dans nombre de dispositions. Madame parlait de l'absence de syndicats. Bon, voilà, il y a un délit d'entrave syndicale qui est évident. Les horaires extensibles, les personnes que l'on force à démissionner pour pas avoir à les licencier. Tout ça, ce sont des infractions extrêmement graves. Et au lieu que l'État se donne les moyens de faire appliquer le code du travail pour protéger les salariés qui sont en grande souffrance et qui, lorsqu'ils ne subissent pas des dommages physiques, subissent des dommages psychologiques graves en termes d'estime de soi, ce qui a un impact fort aussi sur l'espérance de vie, il faut le dire, eh bien, au lieu d'accorder cette protection, on en enlève en rendant plus difficile le fait d'aller au prud'homme, en évidant le droit du travail d'un certain nombre de dispositions protectrices, comme on l'a vu avec la loi qui vient d'être votée, la loi travail. Bref, ces protections à minima ont tendance à disparaître. Et dans de nombreuses entreprises, le droit de grève n'existe plus et le SMIC n'existe plus non plus parce que nombre de gens sont payés en dessous du SMIC.
Si on s'éloigne un petit peu de la France, dans un monde globalisé, il y a eu l'arrivée du nouveau modèle d'ubérisation, hein, c'est-à-dire avec la nouvelle économie. Là, il y a le témoignage dans votre livre d'Abel, 30 ans, qui est livreur à vélo pour une application de smartphone qui vend des repas à domicile. Il pourrait aussi bien vivre à New York. Hein. Qu'est-ce que, finalement, ce système-là, est-ce que vous le condamnez en lui-même ou bien vous dites il faudrait simplement qu'il soit socialement acceptable et réinjecter des règles dans cette nouvelle économie qui est en train de tout broyer ?
Cette économie est appelée collaborative, or c'est tout l'inverse actuellement, elle ne crée que des milliardaires ou des précaires. Il y a absolument rien entre deux. Et on est dans un système qui est effectivement en train de se déployer, mais ça s'élargit au domaine de la livraison de repas, c'est pas que ça, c'est aussi les taxis, c'est aussi énormément de secteurs qui sont concernés. Et effectivement, il va falloir se poser la question de l'utilité sociale du chauffeur Uber, du travailleur Uber, et dans ce cas-là, s'il y a une utilité sociale avérée, il faut que l'on détermine des conditions de travail à la hausse, quoi, puisque là, tous ces auto-entrepreneurs ne bénéficient absolument pas de tout le droit du travail qui s'applique à tous les autres.
Vous citez aussi des métiers qui, alors là, sont ô combien utiles à la société, notamment des professions médicales, des professions qui s'occupent d'enfants. D'ailleurs, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir qu'au plus bas de l'échelle de salaire, on trouve par exemple les nounous qui s'occupent des enfants, de gens pour qui leurs enfants sont le bien le plus précieux de la Terre. Mais bon, c'est une parenthèse. Mais là aussi, vous dites que par exemple, dans les milieux hospitaliers, le travail est devenu un boulot de merde, au dire des gens que vous avez interrogés.
Ben là, on est dans le cadre de l'hôpital de Toulouse où, par exemple, la direction est composée de gens qui sortent des entreprises Carrefour, Pimki et Danone. Vous voyez, donc ils peuvent aussi bien s'occuper de la santé de gens après s'être occupés de vendre des yaourts ou bien des t-shirts. Vous voyez,
pour les cadres hospitaliers, pour l'intérieur des services.
À la direction du CHU de Toulouse. Et donc, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment l'invasion de ces techniques managériales qui sont en fait une rentabilité extrême. Vous disiez aussi faire plus avec moins. C'est effectivement la matrice actuelle du monde du travail. Et dans les métiers particulièrement utiles, comme infirmier, infirmière et aide-soignante, il y a une énorme souffrance qui est tue.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Vincent de Gaulle-Jac, est-ce qu'il y a pour vous une corrélation très nette entre les grands événements politiques qu'on a connus ces derniers mois, l'élection de Donald Trump, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, et puis la dégradation des conditions de travail ?
Ce qui est fascinant quand on écoute les politiques depuis 15 ans, 20 ans, c'est qu'ils ne parlent jamais du travail, ils parlent de l'emploi. Et que si tout est... C'est au nom de la croissance, hein, de la compétitivité pour lutter contre le chômage, qu'effectivement on soutient cette révolution managériale dans tous les secteurs de la société au nom de plus de productivité, d'efficience, de performance, d'excellence, de qualité, etc. Ça serait recevable si effectivement ça produisait ce que ça dit. Mais ça produit l'inverse. Pourquoi c'est inquiétant tout ça ? C'est pas seulement par rapport à la question de la souffrance au travail. On parlait de la valeur tout à l'heure. Hein, la valeur, le capitalisme avait une force comme système économique selon le principe de destruction créatrice, dit Schumpeter. C'est-à-dire, il détruisait en permanence ce qu'il produisait, mais pour produire plus de valeur que ce qui avait été détruit. Et c'était le dynamisme économique, c'était la croissance, c'était la compétitivité, l'augmentation du niveau de vie, l'amélioration des conditions de travail. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Le capitalisme fonctionne selon un principe, hein, de création destructrice, c'est-à-dire qu'il détruit plus de valeur qu'il n'en produit. Il détruit la planète. Il détruit, au nom de la rentabilité financière, il détruit l'économie, c'est-à-dire l'emploi, et il détruit les travailleurs, hein, dans la mesure où, effectivement, on voit tous les symptômes de gens qui sont cassés, de gens qui sont épuisés, de gens qui tombent malades à cause de ça.
Ne pensez-vous pas tout de même que la vapeur pourrait se renverser ? Les entreprises commencent à comprendre ce qui se passe. Il y a par exemple des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques qui confessent hors micro, bien sûr, mais qu'elles ont du mal à recruter des talents aujourd'hui chez les jeunes, tout simplement parce qu'il y a énormément d'entreprises et de secteurs et d'emplois qui ne font plus rêver. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il va y avoir cette prise de conscience dans le monde du travail qu'il faut à nouveau revoir voir les choses.
Il y a le patron des salades Fleurette qui a expliqué récemment qu'il s'occupait, il se souciait énormément du bien.
Le patron des salades
Fleurette, vous savez, les salades en sachet, là, prélavées. Il a expliqué récemment, dans une interview au Page Saumon du Figaro, qu'il se souciait énormément du bien-être de ses salariés, que ça c'est une nouvelle tendance, s'occuper de faire attention à ce que les salariés se sentent bien. Et donc, il était fier d'annoncer qu'il avait doté ses usines de coins avec des poufs où les salariés peuvent prendre 20 minutes de sieste et récupérer un peu de leur force de travail. En même temps, il expliquait que l'entreprise n'est pas une démocratie et les gens font comme je leur dis de faire, point, c'est tout. Et je pense que là, ça définit assez bien ce qui est en train de se passer, où effectivement, à force que... à mesure que se dégradent les conditions de travail et que se creusent les inégalités, des petits pansements sont régulièrement affichés pour montrer qu'on se soucie du bien-être, mais en réalité...
Rien ne bouge. Mais alors finalement, Olivier Siran, vous appelez à quoi dans votre livre, à part à une grande dépression collective?
On n'a pas appelé à quoi que ce soit. Nous, on dresse un constat. On n'est pas des appellistes, on n'est pas des gens qui ont la prétention de dire aux autres ce qu'ils doivent faire.
Julien Brigaud.
Nous, c'est essayer de montrer au plus près de ce que vivent les gens l'ordinaire du monde du travail et du travail aujourd'hui. C'est déjà peut-être essayer de dresser ce constat. Et ensuite, il me semble que la question de l'utilité sociale ne peut se régler que collectivement. Elle ne peut même pas se régler économiquement avec des chiffres en disant que ça détruit. Effectivement, c'est une très bonne entrée en matière, mais l'utilité sociale des métiers ne peut être décidée et évaluée que dans un cadre collectif où on décide que l'on a besoin de tel métier dans la société plutôt que d'autres.
Bon, bah alors là, on n'est pas rendu. Merci en tout cas à vous tous. Julien Brigaud, Olivier Siran, vous publiez « Boulot de merde », enquête sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers aux éditions La Découverte. Vincent de Goljac, sociologue, vous avez publié « Le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou » aux éditions du Seuil. À demain les voisins.